France Culture.
Entre Israël et le Hamas, près de 2 mois de cessez-le-feu, puis Israël a repris les bombardements sur la bande de Gaza ainsi que les attaques terrestres, exigeant la libération de tous les otages et franchissant, selon les ministères de la Santé du Hamas, la barre symbolique des 50 000 morts dans la bande côtière. Alors l'horizon de la paix est-il plus loin que jamais? La situation politique interne à Israël permet-elle d'expliquer le retour des conflits? Comment caractériser dans le même temps la situation en Cisjordanie? Pour en discuter, deux invités ce soir. Laetitia Bucaille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de sociologie politique à l'INALCO et chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Vous êtes par ailleurs membre de l'Institut universitaire de France et vous êtes notamment co-autrice de cet ouvrage intitulé « Désir d'islam, portrait d'une minorité religieuse en France », un ouvrage qui est apparu aux presses de Sciences Po en 2020. Face à vous, Sami Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche émérite aux séries de Sciences Po. Vous êtes spécialiste des questions de politique étrangère et de défense. Vous êtes l'auteur notamment de cet ouvrage intitulé « Israël, une démocratie fragile », c'était en 2021 chez Fayard, et apparaît en avril, on l'annonce ici ce soir, « Tuer ou laisser vivre Israël et la morale de la guerre ». Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
La pression militaire est indispensable à la libération d'autres otages. La frappe militaire sur le Hamas et la libération de nos otages ne sont pas des objectifs contradictoires, ce sont des objectifs qui sont liés l'un à l'autre. Et désormais, les négociations ne se dérouleront que sous le feu.
L'administration Trump et la Maison Blanche ont été consultés par les Israéliens sur leurs attaques à Gaza. Et comme le président Trump l'a clairement fait savoir, le Hamas, les Houthis, l'Iran et tous ceux qui cherchent à terroriser non seulement Israël, mais aussi les États-Unis d'Amérique, vont en payer le prix. L'enfer va se déchaîner sur eux.
Ce matin, dès que nous avons réalisé que nous allions repartir en guerre, la première chose à laquelle j'ai pensé a été « Qu'en est-il des otages ?» C'est une condamnation à mort pour eux, et c'est tout simplement terrible.
Dimanche, le ministère de la Santé de l'enclave a annoncé que depuis le 7 octobre 2023, l'armée israélienne a tué plus de 50 000 Palestiniens de la bande de Gaza.
Alors on va revenir sur la diplomatie, la politique, les intérêts de chacune des parties, mais je voudrais qu'on entame cette discussion par la dimension humaine et humanitaire de ce conflit qui reprend avec une violence inouïe. Je rappelle un chiffre, selon le ministère de la Santé du Hamas, la barre symbolique des 50 000 morts à Gaza a été franchie il y a quelques jours. Laetitia Bucaille, comment caractériser, qualifier, relater même cette situation humanitaire aujourd'hui dans la bande côtière ?
Ça fait très longtemps qu'on dit que la situation est catastrophique. Donc, on ne sait plus tellement quel terme utiliser aujourd'hui. Mais avec l'arrêt des combats, lorsqu'il y a eu la trêve il y a quelques semaines, il y avait quand même un immense soulagement chez les Gazaouis. L'arrivée d'une aide alimentaire. Mais en fait, ce soulagement a été très vite relativisé par les conditions de vie absolument épouvantables. Puisque les gens, pour la plupart, n'ont plus de logement, se réinstallent quelquefois dans les décombres de leur maison, des immeubles qui pourraient s'écrouler à tout moment. Et puis surtout, en fait, peut-être le plus grand problème, c'est l'eau, en fait. Parce que il y a un problème d'eau très ancien à Gaza. Et aujourd'hui, comme Israël a coupé l'électricité, c'est pas tellement le problème, c'est pas tellement que les Palestiniens de Gaza seraient dans le noir. Le problème, c'est que l'usine de désalinisation ne fonctionne plus. Donc, ils ne peuvent plus avoir d'eau. L'eau est vraiment difficile. La nourriture aussi, puisque les convois d'aide humanitaire ont été suspendus depuis 3 semaines. Donc la situation est épouvantable. Et puis je crois que, d'une certaine façon, c'est aussi une étape franchie dans le désespoir supplémentaire, parce que pendant cette première année de guerre, on a parlé quand même beaucoup de la situation à Gaza. Mais disons que la trêve et la rupture de cette trêve introduit comme une lassitude hein, dans peut-être dans le public, dans les nouvelles qu'on entend. Et le risque pour les Gazaouis, c'est finalement que les morts continuent à être nombreux, même plus nombreux qu'avant, puisque sur cette séquence, il y a déjà 700 morts. C'est un chiffre très haut pour les quelques jours de guerre qui ont repris, de bombardements qui ont repris. Et le risque, c'est qu'on les oublie. D'ailleurs, il y a eu cette histoire de tracts qui aurait été dispers, enfin qui aurait été largué sur la bande de Gaza, qui dit en arabe aux Gazaouis que de toute façon on va les oublier et que personne ne va parler d'eux. Alors, il n'est pas sûr que ça soit un vrai tract que le Shin Bet aurait lâché à Gaza. Ça peut être un faux, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est tout à fait révélateur de l'angoisse que peuvent ressentir les Gazaouis. Et c'est une angoisse tout à fait réaliste parce que, en fait, on a parlé pendant un an et demi de la guerre, etc. On risque de se lasser et les combats, enfin, les bombardements israéliens, l'attaque israélienne risque de se prolonger. Et finalement, qu'on oublie les Gazaouis qui, même sans bombardement, sont dans une situation épouvantable puisque la bande de Gaza est devenue absolument invivable.
Alors c'est l'un des objets justement hein, de cette rencontre entre vous deux, l'un des objets de cette émission hein, que de ne pas oublier, que d'expliquer aussi, d'analyser ce qui est en train de se passer. Sami Cohen, c'était intéressant ce que disait Laetitia Bucaille à l'instant, on ne trouve plus les mots pour qualifier l'horreur de la situation humanitaire à Gaza, l'horreur absolue, on emploie des qualificatifs depuis des mois, depuis le 7 octobre évidemment, enfin depuis les jours qui ont suivi le 7 octobre. Comment vous-même vous qualifier cette situation, comment caractériser l'horreur de ce qui se déroule à Gaza aujourd'hui?
Écoutez, je vais pas inventer des mots nouveaux. On a pratiquement tout dit. On a pratiquement tout dit sur la situation là-bas. Et ce qui est inquiétant, c'est que cette phase nouvelle risque de faire oublier le passé. On risque de se dire, mais après tout, Biden va nous manquer parce que Biden faisait pression sur Israël pour qu'il fasse attention à la population civile. Il n'a pas toujours réussi, mais quand même, si, comme il y a des moments où l'armée, surtout à partir de, disons, de novembre-décembre 2023, a commencé à permettre aux convois humanitaires de rentrer. Netanyahu a tenu un tout petit peu compte de Biden. Aujourd'hui, on a une situation où Netanyahu a le soutien total des États-Unis et de Donald Trump. Et d'où cette opération que je n'arrive pas à expliquer. En une seule nuit, il y a 400-500 civils tués, dont le passé, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que tel quartier a été bombardé, tel immeuble a été bombardé. C'était toujours lié quelque part à la présence d'hommes armés du Hamas et le fait que, à cette époque-là, Israël ciblait des maisons dans lesquelles se trouvaient des hommes armés avec très peu de précautions. Mais il y avait une logique militaire quand même, bien qu'il y ait eu très peu de précautions prises par rapport à la population civile. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas donner d'interprétation parce qu'il manque vraiment des informations. Pourquoi est-ce que soudainement le niveau de la puissance de frappe a augmenté brutalement? Est-ce que c'est lié au fait que l'armée israélienne, le gouvernement israélien se sentent libérés par rapport aux pressions que pourraient exercer les États-Unis? Je ne sais pas très bien. Je pense qu'il faut attendre un tout petit peu pour pouvoir donner une interprétation. Est-ce que ça a été des civils qui ont été ciblés délibérément? Je ne sais pas. Je ne peux rien dire là-dessus.
Alors, je voudrais justement qu'on tente de décortiquer ensemble ces motifs qui permettraient d'expliquer hein, la fin de la trêve entre Israël et le Hamas. Laetitia Bucaille, première possibilité, premier fait hein, aussi. Hein, le Hamas a commis nombre d'erreurs pendant la phase 1, des erreurs humanitaires aussi, hein, puis en remettant des corps qui n'étaient pas israéliens, a commis aussi des horreurs hein, sur le plan humanitaire et diplomatique. Est-ce que cela vient expliquer en partie la fureur, j'allais dire, de Netanyahou, ce n'est qu'une toute petite partie du problème? Je vous vois déjà hausser des épaules.
douter de cette hypothèse. C'est-à-dire que, bien sûr...
C'est la première, on va tenter de les lister ensemble. Hein.
Bien sûr que le spectacle donné à voir par le Hamas lors de la libération des otages a pu choquer considérablement les Israéliens. En fait, par cette mise en scène assez chiadée du Hamas, des commandos Ezzedine El-Kassam lors de ces différentes libérations...
Assez chiadée et très macabre, hein.
Ça dépend lesquels, hein, parce qu'il y a eu différents, spectacles, si je peux employer ce terme. Mais il s'agit bien de, effectivement, de mise en scène et de spectacle, à mesure où c'était pas c'était bien des rôles qui étaient appris. Donc effectivement, il y a eu bien sûr l'histoire de la famille Bibas et du corps de Madame Bibas, où il y a eu, voilà. Erreur ou tromperie volontaire, et ça bien sûr c'était tout à fait terrible. Il y a eu ces mises en scène d'otages où on voyait des hommes quand même pas très en forme qui quand même remerciaient le Hamas. Et puis il y en a eu une qui me paraît particulièrement spectaculaire, qui était celle de la libération des quatre soldates, de quatre jeunes femmes, où il y a eu un clip, hein, on peut appeler ça un clip, réalisé par la cellule de communication du Hamas, et qui les présente, elle parle arabe, elle remercie abondamment, elle parle arabe, contrairement aux autres otages qui, généralement, se sont exprimés en hébreu, elles ont parlé arabe, elles paraissaient joyeuse, je dis pas qu'elle l'était vraiment, je sais pas ce qu'on leur avait donné pour qu'elle soit dans cet état-là. Elle n'avait pas l'air en mauvaise santé, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas subi de nombreux tourments pendant leur captivité, mais elles avaient l'air joyeuses, reconnaissantes, elles ont remercié même les chebabs des Ezzedine El-Kassam, hein, je les cite, de les avoir protégées des bombardements. Et donc elles sont reparties même avec des petits porte-clés donné par la masse, comme si elles étaient venues à un goûter d'anniversaire. Et là, enfin, dans toutes ces mises en scène avec l'administration...
Ça peut paraître extrêmement troublant sur le fond. Hein.
Avec toutes ces mises en scène avec cette estrade, ces affiches, ces défilés, etc. Là, le Hamas voulait montrer qu'il était carrément une administration, quasiment en état, qui faisait signer des papiers à la Croix-Rouge, à tout le monde, etc., avec des certificats. Hein, c'était la bureaucratie du Hamas, c'était la puissance du Hamas, parce que c'était aussi l'occasion de voir tout un tas d'hommes du Hamas défiler. Donc on voyait qu'il en restait un certain nombre. Et puis c'était effectivement la soumission de ces otages. Et ce spectacle s'adressait aux Israéliens, pour sans doute enfin au gouvernement israélien pour les narguer. Il s'adressait aussi aux Palestiniens parce que c'était l'occasion pour le Hamas là de montrer sa puissance. Et je dirais que ce spectacle là, s'il a pu choquer nombre de gens en Israël et en Europe, n'a pas choqué les Palestiniens parce que eux, les Palestiniens, les images auxquelles ils comparent ces libérations, c'est les libérations des prisonniers palestiniens. Et les prisonniers palestiniens, certains ressortent en très, très, très mauvais état des prisons israéliennes, où ils sont, de manière avérée, torturés, laissés sans nourriture, etc.
Sami Cohen, comment est-ce que vous-même vous interprétez, comment vous avez lu, justement, ces mises en scène macabres, hein, macabres pour l'essentiel, pas toutes, on vient de le comprendre, mais pour l'essentiel, mises en scène organisées par le Hamas durant ces jours de trêve, durant la phase 1 de la trêve?
Il y a un objectif politique éminent, celui de montrer à sa propre population, aux Gazaouis, mais également aux Israéliens et au monde, que le Hamas est toujours là. Donc tous ces petits détails, qui peuvent sembler des détails banals et ordinaires, visent à montrer que le Hamas est toujours puissant à Gaza et continue à fonctionner selon des règles que la guerre n'a pas réussi à défaire. Et
il montre qu'il est puissant, le Hamas, quand il prétend se tromper de corps au moment de la restitution justement d'un otage israélien décédé.
C'est
une administration qui échoue quand même dans la façon d'organiser les choses et notamment sa diplomatie.
Mais on ne sait pas très bien. C'est probablement. C'est probablement une erreur de leur part, puisque en fait leur réaction a été très rapide. Ils ont accepté très vite de procéder à la recherche du bon otage décédé. Écoutez, on ne sait pas très bien où se trouvent les restes des otages vivants et morts israéliens. Où est-ce qu'ils sont? Au bout de quasiment un an et demi de guerre, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment le Hamas gère ce genre de problème. Où est-ce qu'il garde, comment est-ce qu'il réussit à préserver en état plus ou moins correct les corps des otages qui ont été tués. C'est vraiment une énigme. L'armée israélienne qui pensait avoir fait un travail de manière très fondamentale découvre en fait qu'elle ne sait pas grand chose.
Laetitia Bucaille, je voudrais revenir sur l'un des motifs qui a été soulevé tout à l'heure par Sami Cohen. Il expliquait qu'au fond, Israël ne ressentait plus aucune pression aujourd'hui. Le gouvernement, en tout cas israélien, ne ressentait plus aucune pression, notamment de la part des États-Unis. Il y a un élément de langage qui a été employé par Donald Trump comme par Benjamin Netanyahou, c'est permettre à l'enfer de se déchaîner. Les deux ont employé cette expression-là. Est-ce qu'il est vrai, selon vous, que les États-Unis, maintenant, donnent carte blanche à Israël pour organiser la guerre à Gaza comme il l'entendrait?
On ne sait pas ce qui se passe en coulisses, on ne sait pas ce qui est dit non publiquement, mais en tout cas, effectivement, il y a eu un langage. De toute façon, l'attitude de Trump et de son administration dans énormément de domaines s'affranchit complètement des règles. Donc, en fait, on a l'impression quand même que dans beaucoup de domaines, on n'est plus obligé de respecter les règles ni de la diplomatie, ni du droit humanitaire, ni de respecter les individus. Donc je pense que oui, ça a un effet complètement, libérateur pour le gouvernement israélien qui sent effectivement qu'il n'a géré aucune pression. Alors après, c'est vrai que Trump est tellement au fond inattendu et imprévisible que peut-être que dans un temps ultérieur, l'attitude de Trump évoluera. Si Trump estime que les pays du Golfe qui voudraient approfondir les accords d'Abraham, etc., l'Arabie Saoudite formule des exigences claires, peut-être que l'attitude américaine évoluera, mais rien n'est moins sûr. Et je dirais que pour répondre à votre question tout à l'heure sur pour faire le lien avec la question tout à l'heure sur les adjectifs, un qualificatif qu'on pourrait ajouter à la situation aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie, c'est une situation honteuse, puisqu'en fait, bon, Israël est dans sa logique de taper toujours plus fort. Les États-Unis sont aussi dans cette logique, mais le monde ne réagit pas. En fait, il y a quasiment aucune réaction à ce surcroît de violence. Ni l'Europe, ni les pays arabes, ni les pays musulmans. Donc, c'est le risque que courent les Gazaouis et Cisjordaniens de mourir à bas bruit.
Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à la situation politique interne à Israël et qu'on tente de comprendre justement comment elle peut influencer largement, voire très largement, la reprise des hostilités à Gaza.
Ronen Bar ne restera pas à la tête du Shin Bet. Il n'y aura pas de guerre civile et Israël restera un État démocratique. Les faits sont clairs comme de l'eau de roche. Le licenciement n'était pas destiné à empêcher l'enquête, mais c'est l'enquête qui était destinée à empêcher le licenciement. Alors dites-moi, qui ici agit avec des arrière-pensées?
Gali Baharav Miara, également conseillère juridique du gouvernement, a marqué son désaccord après le limogeage vendredi du chef du Shin Bet, Ronen Bar. Elle a adressé une lettre au cabinet ministériel dans laquelle elle réaffirme ses positions.
Le gouvernement cherche à se placer au-dessus des lois, à agir sans contrôle ni équilibre, même en période d'urgence.
Après que Netanyahou, visé par une enquête, a tenté de licencier son enquêteur, aujourd'hui l'accusé veut licencier son procureur. C'est illégal, c'est corrompu. Cela ne passera pas.
Avant de faire le lien, Sami Cohen, avec ce qu'il se passe actuellement à Gaza, expliquez-nous pourquoi le gouvernement de Benjamin Netanyahou s'en prend aujourd'hui à deux grandes personnalités de l'État israélien, le patron du Shin Bet et la procureure générale du pays.
Écoutez, ce sont deux cas relativement distincts, qu'ils ont ceci en commun, c'est que ce sont des personnes, enfin des responsables, des hauts responsables, qui osent contredire le Premier ministre. Et nous sommes dans un climat, dans un régime qui a évolué dans un sens de plus en plus autoritaire.
En Israël.
En Israël, où le gouvernement de droite, d'extrême droite, essentiellement penchant à l'extrême droite, ne supporte plus d'être contredit par ses serviteurs, des serviteurs de l'État. Si on prend le cas d'abord de la conseillère juridique du gouvernement.
Gali Baharav Miara.
Exactement. Ce qui les gêne, c'est, en fait, c'est que cette dame qui est considérée et qui est véritablement celle qui défend l'État de droit en Israël, cet État de droit gêne le gouvernement. Il ne supporte plus que, de manière répétée, à chaque fois que le gouvernement prend des décisions qui contredisent la loi, qui est une personne qui est en fait qui a une double casquette, hein, la conseillère du gouvernement. Elle conseille le gouvernement, mais elle est aussi procureure générale du gouvernement, c'est-à-dire qu'elle peut, si le cas se présentait, et ça s'est présenté avec Netanyahou, elle peut inculper un chef de gouvernement, des ministres et des membres de la haute administration.
C'est un contre-pouvoir, donc.
En quelque sorte, c'est un contre-pouvoir, oui, dans une certaine mesure, certainement. Et ça, c'est quelque chose qui ne supporte pas d'être rappelé à l'ordre de manière répétée pour, à chaque fois, s'entendre dire que telle mesure n'est pas conforme à la loi. Et donc, s'il y avait un recours devant la Cour suprême, la conseillère juridique du gouvernement ne défendrait pas le gouvernement devant les juges suprêmes. Bon, c'est quelque chose dont il veut se débarrasser. Il faut voir le climat général. De même, le gouvernement essaye d'affaiblir la Cour suprême. Ça va dans le même sens, hein. Il essaye d'affaiblir également les ONG de défense des droits de l'homme. Tout ça, c'est en fait, tout ça va dans la même trajectoire, celle d'un changement de régime, un changement de régime qui serait une démocratie que j'appellerais une démocratie autoritaire. À un certain moment, on a parlé en Israël d'une démocratie même totalitaire. Ça, c'est le premier cas. Hein.
Un mot justement sur le deuxième cas. Hein. Oui. Ronan Bar, le chef du Shin Bet. Je rappelle que le Shin Bet, ce sont les services de renseignement intérieur, les services de sécurité intérieure plus exactement. Pourquoi cet homme-là est-il écarté? Le gouvernement l'accuse d'avoir entrepris certaines enquêtes à l'égard de certains membres du gouvernement.
Oui, ce qui a dérangé le plus le Benjamin Netanyahu, c'est que effectivement le chef du Shabak, du Shin Bet, on dit en Israël le Shabak, a entrepris une enquête concernant des proches conseillers du Premier ministre qui auraient été financés par le Qatar pour lancer une campagne pour améliorer l'image du Qatar dans l'opinion publique israélienne et dans l'opinion publique internationale. Et ils auraient été payés pour ça. Ce qui est contraire à la loi et ce qui est contraire au minimum des règles de sécurité et de défense d'Israël. Et ça, c'est quelque chose que le Premier ministre, évidemment, peut-être visé directement, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure le Premier ministre savait, dans quelle mesure le Premier ministre a donné son autorisation pour que ses proches conseillers agissent dans ce sens-là. Et donc, effectivement, et compte tenu du fait, il y a la personnalité aussi de Ronan Bar, du chef du Shin Bet, qui n'est pas une personnalité falote, elle défend ses arguments. Il y a eu aussi un autre thème de dissension entre le Premier ministre et Ronan Bar, c'est sur, en fait, les responsabilités du 7 octobre. Qui est responsable? Ronan Bar a d'emblée dit que le Shin Bet avait une part de responsabilité, mais il a dit aussi qu'il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête une commission d'enquête qui dévoilerait aussi les responsabilités politiques de l'échec du 7 octobre. Et ça, c'est il y a trop de conflits. Et Netanyahu est dans une situation où il ne supporte plus rien. Il ne supporte aucune contradiction.
Laetitia Bucaille, pour faire le lien avec Gaza, et c'est peut-être le troisième motif qu'on examine ensemble ce soir pour tenter de comprendre justement la reprise de ces hostilités à Gaza, est-ce que la situation intérieure, la situation politique intérieure permettrait à Netanyahou justement de reprendre le dessus politiquement et militairement par la reprise de ces hostilités?
C'est-à-dire, en fait, on le dit depuis le début de la guerre que Netanyahou mène aussi cette guerre pour rester au pouvoir et que c'est sa meilleure assurance pour rester au gouvernement. Alors, sans doute, c'est une dimension de son attitude, mais je crois que quand même, il y a aussi une conviction profonde chez Netanyahou, chez d'autres membres de son gouvernement, ou voire tous les membres de son gouvernement, que il faut se débarrasser du Hamas, quitte à liquider, à tuer énormément de civils, et que c'est un objectif incontournable, premier, et que on fait ce choix au détriment du sauvetage des otages. Je crois que c'est bien sûr qu'il y a cette...
Alors que c'est la première raison invoquée pour la reprise des hostilités.
Bah, on voit bien que jusqu'ici, ça n'a pas tellement marché. Il y a eu quelques otages, effectivement, qui ont été libérés par l'armée israélienne. Enfin, c'est une toute petite minorité. Et on sait, on se souvient aussi que l'armée israélienne a tué même des otages qui s'étaient libérés eux-mêmes, qui s'étaient enfuis. Peut-être que leur ravisseur, leur geôlier, avait été tué. Et ils ont été pris pour des assaillants. On leur a tué dessus. Enfin, c'est quand même... C'est quand même extrêmement délicat dans cette bande de Gaza qui est un territoire non maîtrisé par Tsahal, malgré tout ce qui a été entrepris, tout ce qui a été détruit, mais qui ne maîtrise toujours pas les tunnels, de vraiment, par une opération commando, de libérer des otages. Sinon, il l'aurait déjà fait. Bien entendu.
Ce qu'il faut nous expliquer par ailleurs, Sami Cohen, c'est que la reprise des bombardements israéliens a aussi permis de récupérer des alliés politiques, puisque des ministres ont rejoint les rangs du gouvernement israélien, ministres qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire voter notamment le budget.
Oui, c'est exact. La reprise de hostilité a permis de faire revenir Itamar Ben-Gvir au gouvernement et donc de consolider sa majorité. Mais je rejoins un peu ce que Laetitia Bucaille a dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas la seule raison. En fait, si on réfléchit bien, la deuxième phase du cessez-le-feu, de l'accord de cessez-le-feu qui prévoit la libération de tous les otages et notamment le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza, retrait notamment du passage de Netzarim, retrait de l'axe de Philadelphie, tout ça c'était assez prévisible que Netanyahu n'aurait pas respecté sa deuxième phase.
Alors, vous êtes en train de nous dire, vous voulez dire qu'il était prévu que le gouvernement israélien n'atteigne jamais la phase 2 de l'accord ?
N'était pas prévu, moi je dirais. Ce qui était prévu, c'est les accords de cessez-le-feu. Par contre, ce qui était prévisible en tant qu'analyste, c'est que, au fond, Netanyahu n'aurait jamais respecté la phase 2 qui aboutit au retrait total. Pour une raison très simple. Le retrait total veut dire victoire pure et simple du Hamas. Or, depuis le début, moi c'est quelque chose à laquelle j'ai toujours pensé, l'objectif des deux parties, c'est de pouvoir, le jour venu, de crier victoire. Et l'un va empêcher l'autre de remporter cette victoire-là. Et il y a un deuxième argument, c'est l'argument de la sécurité. C'est le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, ça permet au Hamas de reprendre des forces, de reprendre le contrôle de la bande de Gaza, et de reprendre les hostilités, voire d'effectuer une attaque comparable à celle du 7 octobre. Mais ça, c'est quelque chose qu'aucun aucune personnalité, aucun dirigeant politique, même de centre droit ou de centre gauche, n'accepterait. Donc, c'est pas simplement un problème d'intérêt politique intérieur. Mmh. C'est le problème de l'intérêt du pays qui est en cause.
Vous êtes d'accord avec ça, Laetitia Bucaille, et notamment avec le premier argument selon lequel les deux parties cherchent aujourd'hui à revendiquer la victoire. Et pour le Hamas, cette victoire, elle signifierait un retrait pur et simple de Tsahal, justement, de cette bande côtière de Gaza.
Oui, je suis d'accord sur le premier argument, absolument. Les deux parties veulent absolument revendiquer la victoire. Et pour le Hamas, à ce stade, ça serait une victoire d'obtenir le retrait complet d'Israël. Même si, en fait, on peut relativiser cette victoire, parce que avant le 7 octobre, l'armée israélienne n'était pas à Gaza. Donc on retourne à la case départ avec entre-temps, quand même, beaucoup de choses qui se sont absolument effondrées. Là où j'ai une petite différence avec Sami Cohen, c'est que je suis pas sûre que l'évacuation de Gaza permette à au Hamas de préparer une attaque semblable, même de moindre mesure, que le 7 octobre. D'abord, ça serait pas son intérêt, parce que en fait le Hamas a intérêt à un cessez-le-feu durable, hein, c'est ce qu'il ne cesse de proposer, un cessez-le-feu qui durait même 5 ans ou 10 ans, hein, c'est ce qu'il a essayé de négocier à plusieurs reprises. Il sait bien quand même que la population gazaoui est absolument à bout. Hein. La disposition aux martyrs trouve quand même ses limites. Après 50 000 morts, mais on sait qu'en réalité c'est beaucoup plus. Hein. Puis c'est des morts, c'est beaucoup de blessés, de gens amputés, etc. Donc je ne crois pas que le Hamas, même s'il n'est pas totalement écrasé, il est quand même affaibli. Il pourrait pas mener une attaque semblable à celle du 7 octobre, même de moindre envergure. On sait que pour préparer cette attaque, il leur a fallu des mois, voire un an, deux ans pour préparer cela. Donc, le Hamas a davantage intérêt qu'Israël à obtenir un cessez-le-feu durable. Ça, c'est certain.
En résonance avec vos analyses à chacun, lumière sur ce qu'il se passe par ailleurs en Cisjordanie.
De la fumée s'échappe encore des carcasses calcinées. Dans le village d'Oum Safa, en Cisjordanie, les stigmates de la violente attaque perpétrée par des colons israéliens sont bien visibles. Plusieurs voitures brûlées, pas de quoi ébranler la détermination de ces Palestiniens.
Nous, dans le village d'Oum Safa, nous ne bougerons pas, nous ne partirons pas, quelles que soient les attaques et le nombre de fois où nous et nos biens sont attaqués.
Chaque jour, il y a des problèmes, et particulièrement dans la région de Massaferyata et les villages autour d'Hébron. Jour après jour, c'est comme ça.
Depuis le 7 octobre, les colons ont changé leur comportement. Où qu'ils aillent, il y a des problèmes. Avant, ce n'était pas comme ça tout le temps.
Reportage signé France 24 et Sami Cohen, c'est le journal Le Monde qui emploie cette expression en Cisjordanie. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse là aussi ?
Si on veut, si on peut appeler ça une guerre, il faut remonter un tout petit peu en arrière. En mars 2022, plus d'un an avant le 7 octobre, on a senti que des Palestiniens étaient en mesure de reprendre des attaques terroristes à l'intérieur même d'Israël, puisqu'il y a eu notamment une attaque terroriste dans Tel Aviv même. Et donc, au fur et à mesure que les attaques se multipliaient, l'armée a bien senti qu'il se passait quelque chose dans les camps palestiniens, notamment dans le camp de Jenin, et que, au fond, ils avaient laissé passer un développement qui se faisait de manière évidemment de manière secrète et pas tout à fait visible par les services de sécurité, c'était un renouveau du foyer du Hamas, notamment dans une ville comme Jenin et dans le camp palestinien, qui montrait bien qu'il y avait une volonté de reprendre la main, de reprendre les hostilités, compte tenu du fait que rien ne bougeait, que l'autorité palestinienne était totalement impotente Et à partir de ce moment-là, on sent l'armée israélienne petit à petit s'installer, essayant d'aller déloger, d'obtenir des informations. Parce qu'il faut comprendre une chose, pour vaincre le terrorisme, il faut des informations. Et pour avoir des informations, il faut faire des attaques assez ciblées, aller chercher les gens, les interroger sous la pression et pouvoir faire ce genre d'opération. Alors le gros problème, en fait, c'est moins l'armée que la connivence entre les colons et l'armée. Les colons se sentent, avec la guerre du 7 octobre, ils se sentent de le plus en plus le vent en poupe, ils sont de plus en plus agressifs envers les citoyens, les habitants palestiniens de Cisjordanie, et l'armée laisse faire. Et cette connivence qui n'est pas nouvelle, elle s'est accrue par le fait que en fait l'armée a d'autres choses à faire, elle a d'autres choses à fouetter. Elle a eu la guerre du 7 octobre, le Hamas, elle a le Hezbollah. Et donc, s'est instaurée une situation un peu débridée en Cisjordanie, qui est tout à fait, qui va tout à fait à l'encontre d'un possible renouveau des négociations de politique entre les uns et les autres.
Laetitia Baïk-Bukaï, vous qualifiez vous-même la situation en Cisjordanie de la même façon. Je veux juste donner une information. Ce week-end, 13 nouveaux quartiers parmi les colonies en Cisjordanie ont été qualifiés de villages indépendants, ce qui est souvent la première paire justement pour organiser plus avant cette colonisation, Laetitia Baïk-Bukaï.
En fait, ce qui est en train de s'accélérer, c'est la dépossession des Palestiniens, puisqu'on expulse des Palestiniens, on vide des camps de réfugiés, alors notamment celui de Jénine, mais il y en a d'autres qui ont été, où les habitants ont été sommés de partir là où ils pouvaient partir. Personne ne leur assure de relogement. Et effectivement, les colonies s'étendent. Donc, en fait, on est en train, ça se passe depuis des mois et des mois, et bien sûr, depuis que les ministres d'extrême droite sont là, les communautés bédouines aussi sont empêchées de vivre là où elles vivent. Il y a eu des expulsions, dans énormément de lieux en Cisjordanie. Donc, ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est de faire partir les Palestiniens, de réduire les enclaves palestiniennes, de les réduire encore, et d'instaurer un contrôle à l'intérieur de la Cisjordanie. C'est que, en fait, non, les Palestiniens de Cisjordanie, seulement c'est difficile de franchir la frontière pour aller vers Israël ou ailleurs, mais même à l'intérieur de la Cisjordanie, ils ont de plus en plus de mal à circuler. Ils sont gardés de toutes parts avec cette impossibilité de vivre en fait, tout simplement de vivre une vie quotidienne normale.
Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion. Pardon, Sami Cohen, je voulais parler, mais malheureusement, on arrive déjà au terme de cette émission. Laetitia Baïk-Bukaï, je rappelle que vous êtes professeure de sociologie politique à l'INALCO. Sami Cohen, directeur de recherche émérite aux séries de Sciences Po. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Question du soir.